autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ? Comment la science infuse ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver autour de notre table ronde mensuelle et toujours virtuelle. Distanciation oblige, en compagnie de nos consoeurs et confrères de la presse scientifique qui vont donc se succéder à tour de rôle et en direct, soit ici en studio, soit en ligne, depuis leurs rédactions respectives, avec comme chaque mois des exemplaires de leur magazine à vous faire gagner, vous le savez, chers amis auditeurs. Merci donc à Carole Châtelain de Science et Avenir, Cécile Estienne de Cerveau et Psycho, Thomas Cavalier-Foll de Science et Vie et Philippe Hénarejos de Ciel et Espace, d'être fidèle au poste, au programme aujourd'hui spatial et spécial, l'alunissage de la sonde chinoise Chang'e 5 et la controverse autour de la présence de vie possible sur Vénus. Entre science et science-fiction, il sera aussi question d'intelligence artificielle et des différentes façons de régénérer notre cerveau. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse sur Terre et juste sur la Lune, bienvenue.
Voici les images que les autorités chinoises veulent exposer au monde entier. Une courte vidéo de surface lunaire, tournée cet après-midi par la sonde Chang'e 5. Preuve que le module spatial chinois a bien réussi son alunissage. Cette sonde est désormais chargée de collecter près de 2 kg de roches lunaires, en creusant jusqu'à 2 mètres de profondeur. Des roches qui seront ensuite ramenées sur Terre à la mi-décembre. Lancée avec succès mardi dernier depuis le centre spatial de Wenchang, cette sonde est un bond en avant pour le programme spatial chinois. Pékin investit des milliards d'euros dans la conquête spatiale et se félicite de ce succès. D'après les premiers retours que nous avons avec le centre de contrôle, je suis en mesure de vous dire que le lancement de notre mission est un succès total. Pékin souhaite tester ses nouvelles capacités spatiales avant de passer la vitesse supérieure avec un objectif, envoyer des astronautes chinois sur l'astre lunaire à l'horizon 2030.
Reportage diffusé sur France 24. Philippe Hénarejos, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous, en direct en vrai. Hein. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Ciel et Espace. Alors que faut-il, que peut-on retenir de cet indéniable succès chinois, l'alunissage, c'est comme ça qu'on doit dire, je crois, de Chang'e 5 ou Chang'e 5, hein, comme on veut.
Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est encore une belle démonstration technologique de réussite, parce que cette mission, il y a déjà eu des missions de retour d'échantillons automatiques, d'échantillons lunaires. C'était les Soviétiques à l'époque qui l'avaient fait, et la dernière fois, c'était en 1976, mais c'était quand même assez frustre, on va dire. C'était des sondes qui étaient envoyées avec très peu d'informatique à bord. Tout était en séquence automatique. Et si la sonde, par exemple, se posait sur un endroit avec des rochers et était déséquilibrée par un rocher, elle tombait. C'est arrivé à Luna 23, d'ailleurs. Tout marchait bien. Et puis, manque de bol, elle s'est posée dans un trou sur une bosse et ça n'a pas marché. Là, et le retour était direct vers la Terre. On redécollait de la Lune et on envoyait directement, comme le canon de Jules Verne, mais inversé, de la Lune vers la Terre.
Oui.
Quand je disais que c'est une réussite technologique, c'est que on a une mise en orbite autour de la Lune, on a une séparation de l'orbite lunaire, on a une phase de descente propulsée, on a un atterrissage en douceur. Évidemment, il y a une pelle qui a déjà ramassé des échantillons, une foreuse qui a déjà creusé, qui a déjà emballé la récolte à l'heure où nous parlons. Hein.
Donc c'est extrêmement rapide.
Tout ça sous l'œil de caméra qui donne le contexte pour les géologues, parce que ramasser une pierre sans savoir d'où elle vient, c'était ce qui arrivait aux sondes russes à l'époque.
Et du coup, ça sert pas, enfin, ça sert beaucoup moins.
C'est mieux que rien, mais là, on sait que c'est dans une plaine, on voit une montagne au loin, etc.
Vous avez vu les images.
J'ai vu les images tout à l'heure.
Qui ont un peu tardé à arriver.
Elles ont carrément tardé. disons qu'ils l'ont joué à la... Ils veulent avoir le prestige de la réussite, mais ils ont une peur panique de l'échec. Et c'est une communication à la soviétique, c'est-à-dire on annonce le succès une fois qu'il a eu lieu. Donc hier, par exemple...
Et pas d'image sur le moment même, de peur que ça marche pas.
Le lancement, ils devaient maîtriser assez. La fusée Longue Marche 5, elle a l'air au point. Donc ils ont fait un direct. On était tous stupéfaits parce qu'il y avait des vues embarquées. C'était énorme. On avait vraiment l'impression d'être à la NASA, donc de vivre ça en direct. Là, pour l'alunissage, l'atterrissage sur la Lune, on a eu une rupture du direct 30 minutes avant. Et puis on a su, après, par un communiqué laconique de deux lignes, que ça avait marché, mais on n'a rien vu.
Et
on
culture a vu, du secret.
Voilà,
hein,
on a vu les images après, et encore en basse définition. Souvent, ce sont des captures d'écran de vidéos prises dans la salle de contrôle qui montrent l'écran de contrôle. Donc vous voyez, en termes de définition, ce n'est pas terrible. Alors là, ça commence à arriver. Cet après-midi, il y a sur des sites chinois un premier panorama lunaire qui est arrivé. Et donc, c'est une vraie réussite technique, parce que vous voyez, c'est complexe, tout ce que je vous racontais. Et juste pour boucler par rapport à tout à l'heure, il faut redécoller de la Lune, faire un rendez-vous en automatique avec un module qui est resté en orbite, transférer les échantillons dans une capsule qui est d'abord de ce module, fermer la porte, expédier le module vers la Terre et faire rentrer ce module dans l'atmosphère terrestre et le récupérer tranquillement sous un parachute. Donc tout ça, quand même, ça
c'est
préfigure...
C'est vraiment une prouesse technologique, oui.
Voilà, et ça, tout ça avec une informatique géniale, des caméras, des capteurs, tout ce qu'on peut imaginer. Et ça préfigure quand même, ça permet à la Chine d'apprendre tout ce qui sera nécessaire, effectivement, pour envoyer des humains sur la Lune.
C'est pour, parce c'est que pas c'est la ça complexi- la prochaine voilà. étape, en fait.
Hein. Ce n'est pas la complexité pour le plaisir de la complexité. Mais toutes ces manœuvres, il sera nécessaire de les maîtriser quand on enverra des équipages sur la Lune.
Et les Chinois enverront des équipages sur la Lune. Ils sont vraiment dans la course.
Oui,
là,
ils le font. Ils ne font pas la course. Ils le font à leur rythme.
Ils ne font pas la course.
C'est les autres qui font la course. Ce sont les Américains qui font la course, en fait.
C'est ça. Hein. Parce qu'on a l'impression parfois de commentaires un peu paternalistes. Ils font la course derrière les Occidentaux. Or, ce n'est pas ça. Ils vont à leur rythme, les Chinois, dans l'espace, c'est ça?
Absolument. Moi, j'ai eu la chance d'interviewer un responsable qui n'est plus en poste maintenant de l'astronomie spatiale chinoise, qui me disait non, nous, on ne fait pas la course. On fait un programme, on a prévu de faire ça. S'il y a du retard, on analyse, on prend notre temps, mais on le fera. Et ça met un peu la pression aux États-Unis qui ont toujours réagi finalement comme ça. C'était comme ça en 1960, quand il y a eu le premier Spoutnik, quand il y a eu Gagarine dans l'espace. Les Américains ont réagi en allant dans l'espace. Ils ont réagi à l'agression, entre guillemets, à ce qu'ils considéraient comme une agression russe. Là, c'est pareil. Les Chinois, ils le font et finalement, ils commencent à avancer. Et chemin faisant, ils sont un peu devant là. Alors, les Américains, eux, c'est eux qui font la course. Ils font la course derrière. C'est un peu toujours le scénario des films hollywoodiens, finalement.
C'est ça. Sauf que là, pour le coup, ce sont les Chinois, tranquillement, voilà, qui sont en tête. Alors, pendant ce temps-là, pendant que les Chinois réussissent à alunir, ils font vraiment un exploit scientifique, ils vont ramener les échantillons sur Terre d'ici, on l'attend pour la mi-décembre.
Pour le 15 décembre, oui, 15-16 décembre.
Extrêmement rapide, tout ça. Pendant ce temps-là, un radiotélescope sur une île, sur l'île de Porto Rico, le radiotélescope d'Arecibo, c'est carrément effondré, causant de sacrés dégâts.
Et oui, en fait, ce radiotélescope, il est historique en astronomie, parce que ça a été le plus grand, le plus puissant. Et là aussi, vous allez voir, c'est quand même intéressant. Il faisait 305 mètres de diamètre. C'est une parabole dans une cuvette naturelle, avec un instrument focal qui était tenu par trois pylônes gigantesques, avec des câbles, et il y avait une structure. Mais imaginez ça, c'était à 130 mètres de haut, au-dessus de la parabole. Et ça pesait 900 tonnes, quand même.
Wow.
Donc, il y a déjà quelques mois, il y a un câble secondaire qui s'était cassé. Donc, ça posait problème. On regardait, on était en train d'analyser. Et puis, il y a quelques temps, un câble principal avait cédé. Et les investigations montraient que le radiotélescope avait souffert, en fait, des outrages du temps. Peut-être il y a eu un cyclone il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps.
Sur Porto Rico,
qui a fait souffrir la structure. Et les câbles avaient vieilli plus qu'on ne le pensait, visiblement. Et donc, la NSF, National Science Foundation, qui est propriétaire qui est américaine et qui a financé le radiotélescope, avait dit on va le détruire parce qu'on ne peut pas le réparer, c'est trop dangereux. Déjà, c'était dangereux. Et là, ce qui s'est passé, c'était hier matin, à 7h55, heure locale de Porto Rico, les câbles principaux ont cédé, toute la structure de 900 tonnes est tombée, a fait une chute de 130 mètres de haut et est venue percuter la parabole qui est faite de sortes de treillis métalliques assez costauds quand même, mais ça l'a détruit, ça a détruit en partie un bâtiment qui était à côté, il faut imaginer, c'est une véritable catastrophe. Et donc là, ce radiotélescope ne sera sans doute pas reconstruit de toute façon. Et faut savoir que il a servi à beaucoup de choses, à l'étude des pulsars, la cartographie des astéroïdes et géocroiseurs qui passaient près et dont on pouvait voir la forme grâce à cette parabole gigantesque. Et aussi, c'est plus anecdotique, ça a été le premier instrument qui a envoyé un message aux extraterrestres en 1974. Le fameux message d'Arecibo est parti en direction de l'amas globulaire M13 situé à 25 000 années-lumière. Donc il n'est pas arrivé encore. Mais vous voyez que quand on recevra la réponse, si réponse il y a, ce sera bon, à peu près dans 50 000 ans, parce qu'il faut le temps d'aller-retour.
D'accord.
On sait déjà que le radiotélescope Arecibo n'écoutera pas la réponse. Mais entre-temps, ce sera peut-être son successeur chinois. Parce qu'entre-temps, il y a un nouveau radiotélescope de même type qui a été construit en Chine, qui lui fait 500 mètres de diamètre et qui est flambant neuf et qui commence ses observations. Donc c'est la fin d'une époque. Il allait être détruit de toute manière. Là,
il s'est effondré
de lui-même. Tout était pris comme mesure de manière à ce qu'il n'y ait personne sur la zone parce qu'on savait que c'était dangereux, donc il n'y a pas eu de blessés. Mais c'est la fin d'une histoire.
La fin d'une histoire américaine qui va peut-être se transférer du côté de la Chine. Décidément, l'espace et la géopolitique, on y reviendra sûrement l'année prochaine. Dans Ciel et Espace de ce mois-ci, dont nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditeurs, un exemplaire à vous offrir. Philippe Hénarejo, s'il y a pas mal de choses, puisque c'est décembre et janvier, mais il y a aussi un numéro spécial de Ciel et Espace qui est l'almanach du ciel, tout ce qu'il y aura à voir en 2021, c'est ça?
Oui, c'est ça. Chaque année, nous faisons, appelons ça un annuel, puisque c'est une publication qui va pouvoir accompagner son acheteur et son lecteur pendant toute l'année, puisque ça répertorie les rendez-vous célestes les plus importants et les plus faciles à voir et les plus spectaculaires tout au long de l'année qui vient. Donc de janvier à fin décembre pour 2021.
Ça, c'est à retrouver donc dans l'almanach du ciel, de Ciel et Espace 2021. Parce que là, en ce mois de décembre, il y a quelque chose à observer.
Vous voyez l'importance d'avoir un almanach, c'est que vous saurez à l'avance qu'il y a des conjonctions extraordinaires. Et c'est le cas ce 21 décembre. Et ça, c'est l'objet d'un article dans le bimestriel, dans le ciel et l'espace, c'est Jupiter qui va se retrouver à côté de Saturne. À l'œil nu, ça sera visible. C'est-à-dire que ce sont deux étoiles. À l'œil nu, on a l'impression que ce sont deux étoiles. Ce sont deux planètes.
Jupiter et Saturne.
Voilà. Mais on les voit très bien à l'œil nu. Et elles vont se rapprocher et elles vont être à 6 minutes d'arc. Alors, pour donner une idée de ce que représente cet écart, si vous regardez la Lune, la pleine Lune, d'un bord à l'autre de la Lune, il y a 30 minutes d'arc. Donc, vous voyez, elles vont être vraiment dans un mouchoir de poche.
Extrêmement près.
Donc, si vous avez une paire de jumelles, vous pourrez les voir vraiment côte à côte. À l'œil nu, peut-être que ça ressemblera pas à une seule étoile, mais on verra qu'elles sont séparées, parce que l'œil suffit à séparer ça. Mais ça,
c'est le 21 décembre.
C'est le 21 décembre, alors c'est au crépuscule. En Europe, c'est au ras des pâquerettes, donc c'est au moment où le soleil se couche, il vaut mieux avoir un horizon très dégagé. Mais sous les tropiques ou
sur le continent africain, parce que je renvoie mes auditeurs à notre chronique Ciel d'Afrique.
Ça sera un peu plus favorable, parce que à cause de l'inclinaison de l'écliptique, c'est un peu complexe, je ne vais pas vous raconter ça maintenant, mais en tout cas, ça sera sans doute un peu plus haut dans le ciel au moment où le soleil se couche. Mais en tout état de cause, vous pouvez déjà commencer à observer cette conjonction, parce que si vous regardez le soir au crépuscule en direction du sud, vous voyez une étoile brillante, et si vous faites un peu plus attention à sa gauche et un peu au-dessus, il y en a une autre un peu moins brillante. La plus brillante, c'est Jupiter, en fait, c'est la planète Jupiter, et l'autre, c'est la planète Saturne. Alors, pourquoi c'est exceptionnel ce 21 décembre? C'est parce que ça fait 400 ans que les deux planètes n'ont pas été de manière apparente aussi proche l'une de l'autre. Ça veut dire que si vous l'observez dans un télescope qui grossit même 50 ou 100 fois, vous allez avoir les deux planètes en même temps dans le même champ, d'un même coup d'œil. Et c'est extraordinaire parce que Jupiter est à 600 millions de kilomètres en gros de la Terre et Saturne est à 1 milliard de kilomètres. Alors elles ont l'air proches comme ça. Le rapprochement, évidemment, il est apparent, il n'est pas réel.
Il n'est pas réel, mais pour nous, c'est ce qu'on voit.
Mais pour nous, elles ont l'air de l'une passe devant l'autre en quelque sorte. Et ça arrive, les deux planètes se rencontrent comme ça que tous les 20 ans. Et la prochaine fois, ben, elles seront à 1 degré, c'est deux fois le diamètre apparent de la Lune. Donc c'est joli, mais c'est un peu ce qu'on voit actuellement le soir. Mais le 21 décembre, ça vaut le coup de surveiller soir après soir que ces deux planètes se rapprochent.
Comment elles se rapprochent?
Et personne n'a vu ça depuis 400 ans.
À lire dans Ciel et Espace, et on vous le rappelle, nous, bien sûr, dans notre prochaine chronique, Ciel d'Afrique, ce sera le 16 décembre prochain sur RFI. Merci Philippe Hénarajos, et on se retrouve l'année prochaine, hein, avec Ciel et
avec
Espace,
plaisir.
Bien sûr. On poursuit notre exploration, et même nos élucubrations spatiales, jusque sur Vénus, avec une controverse. Y a-t-il de la vie sur Vénus? Enquête à la une de Science et Vie, assure avec Thomas Cavalier-Foll, autour de la question « Y a-t-il quelque chose ?» En attendant de s'en assurer sur Vénus, il y a quelque chose sur la Lune, et c'est le jeune auteur-compositeur Gaël Faure qui nous glisse entre les oreilles sur RFI.
Sur la lune, qu'on voit bouger des gens avec des plumes, qu'on voit danser un rythme, une coutume éloignée, imaginée. Y a quelque chose sur la lune, on va brûler du bois. Qui se consume, un brasier rouge et rousse brune, elle s'est changée, elle s'est changée. C'est souvent au-dessus de nous que l'on range nos rêves. Quelque chose sur la lune, un peu caché, un voile, une brume. Devinez la silhouette d'une vainée, imaginez. C'est souvent au-dessus de nous que l'on.
Sur RFI, il y a quelque chose sur la Lune. Autour de la question comment la science infusée se diffuse, y a-t-il quelque chose? Y a-t-il de la vie sur Vénus? Gros point d'interrogation. À la une de Science et Vie, Thomas Cavalier-Foll, bonjour.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en ligne avec nous pour partager donc cette enquête de Science et Vie sur une controverse, hein, autour de Vénus et de ce gaz qui aurait été détecté sur cette planète infernale et un peu oublié, hein, dans la quête de la vie extraterrestre. Y a-t-il, est-il possible qu'il y ait de la vie sur Vénus, Thomas Cavalier-Foll?
Alors c'est effectivement la question que se posent de nombreux scientifiques depuis la nouvelle qui est tombée le 14 septembre dernier là. On aurait découvert effectivement un gaz, vous l'avez dit, ceci en analysant la lumière reçue par le télescope ALMA. Il y a eu un pic qui montre la présence d'une molécule particulière. Cette molécule particulière, c'est la phosphine, qui est composée d'un atome de phosphore et de trois atomes d'hydrogène. Et si cette nouvelle, elle a fait un tel bruit, en fait, un buzz, véritable buzz, effectivement, c'est que sur Terre, la présence de phosphine, c'est ce qu'on appelle une biosignature, c'est-à-dire qu'elle est créée par la vie, en l'occurrence par des bactéries. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette phosphine, là, elle ne résiste pas très longtemps. C'est une molécule qui se dégrade très vite, en présence notamment d'oxygène. Et de l'oxygène, en fait, il y en a plein sur Vénus. Pas sous la forme de dioxygène comme on respire, hein, mais de dioxyde de carbone ou de dioxyde de soufre, par exemple, ou d'eau encore, il y a tout ça sur Vénus. Et donc la présence de phosphine semblerait signaler qu'il y a un processus, un mécanisme de renouvellement continu de cette phosphine, puisqu'elle a tendance à se dégrader. Donc, vous imaginez effectivement que toute la communauté scientifique a réagi. C'est une énorme controverse, en fait.
Ben oui, parce que ça voudrait dire qu'il y a de la vie ou qu'il y a des bactéries, de la vie possible sur cette planète qui est considérée comme totalement invivable, hein, dans une fournaise. Hein.
Ah oui, tout à fait, vous l'avez dit, c'est un enfer, Vénus. Hein. Sa surface, c'est une étendue de cailloux et de sable, c'est 460 degrés Celsius, c'est une pression comme si on était à 900 mètres sous l'eau. Donc la vie telle qu'on la connaît, en fait, ça paraît difficile qu'elle naisse. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que cette phosphine, elle n'a pas été détectée sur la surface. Elle a été détectée à 50 km au-dessus de la surface, et là, les conditions paraissent plus agréables. Il fait 15 degrés, la pression est la même qu'à peu près sur Terre, et surtout, il y a de l'eau liquide en gouttelettes. Donc, là parce qu'on est toujours biaisé par la façon dont nous, on imagine la vie, par la façon dont notre chimie fonctionne, mais là où il y a de la phosphine, il semblerait que, en tout cas, les conditions soient plus agréables, plus favorables à l'émergence de la vie. Donc les résultats ont été challengés, hein, bien sûr, les données ont été réanalysées, même depuis que nous, on a sorti cette une ou qu'on l'a écrite, il y a eu de nouvelles publications en préprint, là, comme on dit, qui ne sont pas encore publiées, mais qui sont sur le point de l'être. Et par exemple, les auteurs eux-mêmes ont dit qu'il y avait moins de phosphine que prévu, il y en aurait 7 fois moins que ce qu'ils avaient trouvé au début. Ils pensaient qu'il y en avait, pour 1 milliard de molécules, en gros, il y en aurait 20 de phosphine. Et finalement, ce serait 7 fois moins. Mais en fait, ça reste toujours un marqueur super important. Et donc, ce qu'ils essaient de faire, ces temps-ci, c'est de se demander comment cette phosphine pourrait être arrivée là si ce n'était pas la vie. C'est comme ça qu'on va avancer, en fait, maintenant. C'est éliminer tous les scénarios possibles de création de cette molécule pour en garder un seul.
Si jamais c'est une signature de la vie. Vous dites qu'il y a de nombreuses missions, 5 missions, qui vont essayer de répondre à ces questions totalement abyssales dans les années à venir, Thomas Cavagnoli.
Oui, tout à fait. Effectivement, il y a en 2025, il y a l'agence spatiale indienne qui va envoyer un orbiteur justement pour analyser l'atmosphère. Et donc là, on en saura plus. Et s'il y a de la phosphine, on le saura vraiment, quoi. Il y a aussi l'agence spatiale européenne qui va envoyer un orbiteur aussi, je crois, en 2032 cette fois, avec la mission InVision, et qui aura, elle, pour mission de cartographier un peu l'évolution géologique, toute la surface en tête de Vénus. En fait, c'est assez extraordinaire parce que cette possibilité, parce que là on est encore dans la spéculation, bien sûr, de la vie sur Vénus, mais ça réhabilite un peu cette planète qui avait été un peu oubliée au profit de Mars, parce que pourquoi la vraie jumelle de la Terre, c'est
Vénus, vous disiez, est la vraie jumelle de la Terre.
C'est celle qui ressemble le plus, en tout cas, elle a à peu près la même taille, à peu près le même poids, c'est celle dont on est le plus proche, seulement 40 millions de kilomètres. C'est dans le fantôme, c'est l'étoile du berger, c'est l'étoile du matin, l'étoile du soir. Pendant très longtemps, en fait, c'est vers elle que tous les regards se tournaient. Et c'est d'ailleurs vers elle que les premières sondes ont été envoyées, et même la première fois qu'on a pu avoir des images comme si on y était avec la sonde Venera dans les années 70. Et par contre, c'est ça qui est terrible, c'est que on y a vu une fournaise et des cailloux, et donc elle a été un peu délaissée après cette douche froide, parce que à côté de ça, Mars montrait, il y avait une calotte polaire d'un côté, des rivières asséchées. Donc, en fait, cette vision, cette envie de chercher la vie sur les autres planètes a un peu balayé Vénus, qui a été presque... Oui, c'était une douche froide pendant un moment, et là c'est en train de revenir.
Vénus revient sur le devant de la scène spatiale. Entre Mars et Vénus, notre cœur continue de balancer. Y a-t-il de la vie sur Vénus? Point d'interrogation, en tout cas, enquête passionnante. À lire dans Science et Vie de ce mois de décembre, nous avons bien sûr quelques exemplaires à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, en précisant bien votre adresse postale. À suivre donc entre science et science-fiction. L'enquête et le dossier de Science et Avenir, mais avant je voulais signaler aussi Thomas Cavaillé-Foll, ce numéro hors série, hein, spécial de Science et Vie, oui, consacré à l'histoire de l'univers. Il y a de quoi lire ces mois-ci, mais en tout cas, merci d'avoir été en ligne avec nous et on retrouvera, on vous retrouvera l'année prochaine, Thomas Cavaillé-Foll. Et cette année, on retrouve tout de suite Carole Châtelain pour le magazine Science et Avenir qui nous parlera de collaboration entre intelligence artificielle et cerveau humain. Carole nous dira tout juste après s'être mis dans l'ambiance science-fiction, justement, version Arctic Monkeys sur RFI. Giving you the creeps. Feel the for that disco lizard. Tongue along your cheek. The rise of the machines. I must admit you gave me something momentarily in which I could believe. But the hand of harsh reality's ungrudged. It's on its way back here to scoop you up, but not on my watch. I wanna stay with you, my love, the way some science fiction does. Reflections in the silver screen, strange societies. Swamp monster with a heart on fire. Connectivity, the ascension of the free. Mass panic on a not too distant future colony. Quantitative easing. I wanna make a simple point about peace and love, but in a sexy way where it's not obvious. Highlight dangers and send out hidden. The way some science fiction does. The way some science fiction does. Got the world on a wire in my little mirror, mirror on the wall in the pocket. Science-fiction, science-fiction avec les Arctic Monkeys sur RFI. Autour de la question, comment la science infuse et se diffuse, avec vous, Carole Châtelain, dans Science et Avenir. Bonjour Carole d'abord.
Bonjour.
Merci d'être en ligne, en direct avec nous. Donc autour de ce dossier assez sidérant de Science et Avenir sur la collaboration entre l'intelligence artificielle et le cerveau, nos cerveaux, un dossier qui est... plutôt rassurant, l'homme n'est pas prêt d'être remplacé par des machines artificielles plus intelligentes que lui. On peut commencer par là peut-être, Carole Châtelain.
Mais tout à fait, ce que nous avons voulu faire à Science et Avenir avec nos journalistes Hélène Assander et Arnaud Desvillard, c'est d'étudier vraiment où en était aujourd'hui l'intelligence artificielle pour effectivement faire la part des choses entre la science-fiction et la réalité. Et parce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle l'IA forte, c'est l'appellation consacrée, qui voudrait qu'un jour l'intelligence artificielle dépasse l'intelligence humaine au point de la contrôler. Et ce que nous avons voulu faire dans un premier temps, c'est vraiment étudier les forces et les faiblesses en présence du cerveau et de l'intelligence artificielle. De montrer par exemple qu'ils sont extrêmement complémentaires, parce qu'ils ne se ressemblent absolument pas. C'est-à-dire que vous avez une intelligence artificielle qui est d'une très grande constance par rapport à un cerveau humain qui est plutôt versatile. Vous avez une mémoire plutôt défaillante chez l'être humain contre une mémoire plutôt éternelle et infaillible dans l'intelligence artificielle. Bref, tout ce qui pourrait passer pour des handicaps en fait, du cerveau humain, ce sont des atouts. Parce que jamais l'intelligence artificielle ne remplacera la façon de fonctionner humaine. C'est et donc ça. Aujourd'hui, la recherche porte vraiment sur l'alliance des deux. Et on peut être rassuré parce que l'intelligence artificielle ne sera jamais incarnée, elle n'aura jamais un corps, donc elle ne pourra jamais réagir comme nous, et elle n'aura jamais conscience d'elle-même, parce que pour avoir conscience de soi, conscience que l'on pense, conscience que l'on pense que l'on pense, il faut être incarné, il faut être un humain.
Alors vous dites, elle n'aura jamais, on n'est peut-être pas sûr de ça, mais en tout cas, on n'est pas près d'y être, et on a encore largement le temps de travailler avec nos cerveaux, avec l'intelligence artificielle, qui en revanche peut vraiment réparer et soigner nos cerveaux, nos neurones, nos pathologies.
Alors, ce que nous découvrons aujourd'hui, c'est que la recherche avance, bien évidemment, et aujourd'hui, il y a des chercheurs qui commencent à dialoguer entre eux. Et ces chercheurs, ce sont d'un côté les neuroscientifiques, et de l'autre, les spécialistes d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on travaille actuellement une alliance des deux. Et prenons un simple exemple. À Bordeaux, il y a un institut de physiologie des fonctions exécutives, CNRS, qui s'est allié à un projet qui s'appelle la Mnemosyne de l'INRIA. Ils sont dans le même lieu. Ils se parlent, des chercheurs s'occupent du cerveau humain, les autres d'intelligence artificielle, et ensemble, ils testent des modèles, c'est-à-dire que les ingénieurs fabriquent des modèles informatiques, et puis interrogent les neuroscientifiques sur le fonctionnement du cerveau humain, et inversement, et tout ça aboutit actuellement à vraiment des résultats qui commencent à être très impressionnants, notamment sur la maladie de Parkinson, puisqu'ils ont pu établir que des oscillations de fréquence très spécifiques qui ont lieu dans le cerveau de malades atteints de Parkinson, ils ont pu établir que ce n'était pas, comme on pouvait le penser, une cause de la maladie, mais plutôt une conséquence. Ouais, c'est ce dialogue, on essaye et on interagit, et on fait comme ça beaucoup de progrès dans la compréhension de l'intelligence artificielle et de l'intelligence humaine.
Oui, c'est ça. En fait, on a l'impression que les deux se nourrissent. Qu'en fait, quand on comprend comment faire fonctionner une intelligence artificielle, eh ben, on comprend mieux l'intelligence et le cerveau humain et vice-versa. Enfin, c'est ça, en fait. L'un apporte à l'autre.
L'un apporte à l'autre. C'est une vraie collaboration. Alors, évidemment, il ne faut pas confondre collaboration et interdépendance. Et l'interdépendance, c'est ce qu'on pourrait appeler la science-fiction, c'est-à-dire que c'est tous ces rêves de connexion entre les cerveaux et les machines, des vraies connexions, telles que la rêve Elon Musk, par exemple, avec ses implants, qui voudrait faire une véritable symbiose, c'est-à-dire arriver à ce que nos fonctions cognitives soient directement transférables sur notre smartphone.
Là, vaut mieux s'en méfier. Allez-y.
Il a un projet qui s'appelle Neuralink, qui commence à être mis en place, mais on est encore très loin d'aboutir à quelque chose de vraiment conséquent. C'est pas vers ça que vont les chercheurs. Hein. Vraiment, actuellement, ils sont plutôt sur la collaboration, comment est-ce qu'on peut, sans aucun apprentissage de la part de l'humain, faire travailler une intelligence artificielle, ne serait-ce que par des casques. On pense à la domotique, il suffirait de penser à allumer sa lumière pour qu'elle s'allume. Ce genre d'application, c'est de la collaboration.
Ça, c'est bien. Par contre, voilà. Vous méfiez peut-être un peu nos enceintes connectées, hein, qui pourraient nous espionner, ça par contre on peut garder ça en tête aussi, hein. En tout cas il y a plein de questions ouvertes dans ce dossier assez rassurant, hein, quand même, en tout cas très intéressant, sur la collaboration intelligence artificielle et cerveau humain dans Science et Avenir, donc pour le meilleur on l'espère, car le pire n'est pas pour tout de suite, en tout cas. On peut lire aussi un hors-série, alors un peu différent, on n'est pas dans l'intelligence artificielle, on est dans notre passé, dans notre préhistoire commune, un hors-série de Science et Avenir consacré à Sapiens.
À Homo sapiens, exactement. Donc nous revenons sur toutes les dernières découvertes, notamment génétiques, qui ont été faites sur notre humanité, aux origines de notre pensée humaine. On est dans le thème avec l'intelligence artificielle. Et nous proposons là une remise à niveau de toutes les connaissances que nous avons sur Homo sapiens et ses origines.
Hors série, donc Homo sapiens hors série de Science et Avenir. Et puis à lire donc dans ce Science et Avenir de ce mois de décembre pour se faire son opinion, ce dossier sur la collaboration entre intelligence artificielle et cerveau humain. Je vous rappelle que nous avons quelques exemplaires de Science et Avenir à vous offrir, chers amis auditeurs et internautes. Autour de la question comment la science infuse, on va maintenant prendre une bouffée d'air pour mettre nos cerveaux sur la même longueur d'onde. Marche à suivre, à découvrir tout de suite dans Cerveau et Psycho avec Cécile Estienne, juste après s'être laissé inspirer par Gaël Faye. Respire, extrait de son dernier album sur RFI.
Respire. encore l'insomnie, sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain. Triste face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil.
Ok.
Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les passes ton regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue. Petit chef grand bourreau, faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère.
Encore fatigué, la cloche du midi. Le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face, poursuite du bonheur. Reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs.
Ok.
Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers. Le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais. La vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo, faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil, dans le lit tourne tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfants? S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants. Chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence. Se foutre des codes, des routines étroites, quitter son rôle, les cases et les boîtes. Ne pas craquer, claquer, cramer. Desserre ton col pour respirer.
T'as le souffle court, respire.
Respire, et oui, respire, avec Gaël Faye sur RFI. Autour de la question comment la science infuse et se diffuse en cerveau et psycho, comment dire. Vous nous invitez aussi un peu à respirer. Cécile Essienne, bonjour d'abord.
Et,
ah oui, merci d'être avec nous en direct, de vous avoir dans ce studio, ça fait du bien. Et puis ça permet peut-être de mettre nos cerveaux sur la même longueur d'onde. Et c'est bien ce que vous nous expliquez.
Exactement.
Dans Cerveau et Psycho.
Parce qu'en fait, quand on dit d'un collègue, d'un proche, ou même de quelqu'un qu'on vient rencontrer, ah, on était vraiment sur la même longueur d'onde, ou ah, on a eu une bonne connexion. Évidemment, c'est des façons de parler. Mais en fait, ça correspond, cette façon de parler, à une certaine réalité physiologique. Parce qu'effectivement, parfois, enfin même assez souvent dans notre vie quotidienne, nos cerveaux se synchronisent. Voilà, notre activité cérébrale se synchronise.
Quand on suit comme ça, comme nous, en radio, dans ces dialogues-là, la pensée de quelqu'un, qu'on se répond, qu'on se regarde dans les yeux, c'est vrai qu'on a l'impression que nos cerveaux se synchronisent un peu. Hein, on est sur la même longueur d'onde.
C'est ce que regardent les chercheurs et ils voient qu'effectivement, nos cerveaux se synchronisent. Pas toujours, mais assez souvent. Et en fait, ce sont des études d'hyperscan. Hyperscan, ça veut dire, ce sont toutes les études qui consiste à enregistrer et analyser simultanément l'activité cérébrale de différentes personnes, mais en interaction, pas chacune de leur côté. Alors ça se fait avec différents types d'imagerie, l'IRM, la tomographie par résonance magnétique, ou ce que s'appelle la spectroscopie fonctionnelle dans le proche infrarouge. Alors, ça délimite évidemment ces études, parce que ce n'est pas exactement dans des contextes de vie quotidienne. Notamment quand vous êtes dans le tunnel de l'IRM, là, ce n'est pas une situation tout à fait quotidienne, je l'espère pour vous. Même si, dans ces études, les chercheurs se donnent beaucoup de mal pour étudier ça. Les participants sont reliés par caméra et par audio pour être vraiment en interaction avec l'autre. Parce que c'est la question qui se pose. Pour être en interaction avec l'autre, il faut se parler, il faut s'entendre, il faut échanger des choses, pas uniquement...
Il faut pouvoir l'analyser en même temps, analyser ce qui se passe dans chacun des cerveaux en même temps,
Par imagerie, ils s'aperçoivent que l'activité cérébrale de certaines régions du cerveau, en fonction des activités d'ailleurs, se synchronise. Vraiment, on a l'impression que le cerveau fonctionne exactement au même rythme. Et c'est assez fascinant de voir ça. C'est donc, même si ça délimite, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même fascinant de voir nos cerveaux se synchroniser et de voir que, effectivement, c'est une donnée importante du lien social.
Est-ce que ça a été une surprise pour les chercheurs de découvrir ça? Et jusqu'où on peut aller là-dedans? Est-ce qu'on peut aider à synchroniser des cerveaux? Parce qu'on se rend bien compte qu'on se sent bien, enfin, qu'on est bien, on peut parler beaucoup mieux avec l'autre, chose importante, quand on synchronise un peu nos cerveaux.
Oui, alors est-ce que c'est une surprise? Non, enfin pas le dire, mais c'est pas parce que c'est une surprise que c'est fallait pas faire ces études. Parce que vous savez, c'est une chose d'avoir une hypothèse, bien et sûr. C'est une chose l'autre chose de la montrer. Voilà. Et donc, effectivement, donc ils ont vu des choses qui paraissent évidentes, mais comme je viens de le dire, autant faut-il le montrer. Par exemple, que les cerveaux se synchronisent autant plus facilement que les participants se connaissent. Voilà. Alors, évidemment, vous allez dire, bah oui, on le savait, mais on ne l'avait pas vu. Donc voilà, et on s'aperçoit, ils ont fait des tas d'expériences avec des couples, par exemple, et des couples qui s'entendent bien, donc qui synchronisent bien leur cerveau. Il leur faut faire des jeux, en fait, voilà, et les jeux en binôme, ils gagnent tout le temps quand ils sont bien synchronisés. Donc c'est déjà assez drôle. Ils ont vu des choses aussi qui étaient moins attendues. Par exemple, que les gens, quand ils font des expériences avec des gens qui ne se connaissent pas, ils s'aperçoivent que les gens qui se synchronisent le plus facilement avec les autres, ce sont ceux qui ont beaucoup d'interactions sociales. Les gens qui ont des interactions sociales au travail, dans un club sportif, dans une activité de loisir quelconque.
C'est plus facile de synchroniser quand on l'a déjà fait. le fait souvent.
Oui, ou alors c'est l'inverse, c'est toujours l'œuf et la poule. Est-ce que vous avez beaucoup d'interactions sociales parce que vos cerveaux se synchronisent bien? Ou l'inverse, voilà, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut regarder là. Et on voit aussi que les cerveaux se synchronisent d'autant mieux qu'on se comprend mieux. Donc voilà, donc on comprend bien aussi ce que dit l'autre. Et ça, ça a été testé dans des situations enseignants-élèves, sur des tâches assez simples, de formules mathématiques très simples ou des lectures.
Des pistes intéressantes à développer. Hein.
Pareil, c'est pas révolutionnaire, mais oui, quand vous êtes sur la même longueur d'onde que votre professeur, vous apprenez mieux.
Même longueur d'onde, ça nous parle à nous en radio et on se dit que ça peut inspirer pas mal de pistes de recherche, d'applications et de réflexions dans la vie quotidienne que ça a été démontré.
Oui, alors ils ont aussi montré, ça c'est une étude chinoise qui l'a montré, c'est assez amusant que visiblement la synchronisation de nos activités cérébrales rime assez bien avec altruisme. Ils ont fait une petite...
Et empathie peut-être.
Voilà. Ils ont fait une altruisme là vraiment, parce que dans l'étude, ils se faisaient se rencontrer des gens qui ne se connaissaient pas au départ, qu'ils ont fait interagir en jouant à des jeux. Enfin voilà. Et puis après, ils leur ont dit, eh bien, allez donc au cinéma, choisissez un film que vous avez tous les deux envie d'aller voir. Voilà. Et donc c'est le jeu de rôle. Et hop, sur le chemin pour aller voir le film, quelqu'un arrive en disant, je suis perdu, je ne peux pas, faut aidez-moi, etc. Et en fait, plus la synchronisation entre les deux premiers cobayes, plus la synchronisation était bonne, plus les deux personnes prenaient le temps d'aider la personne en détresse, même au risque de rater le début du film. Et plus ils l'aidaient que si la synchronisation n'était pas bien faite. Intéressant.
Donc, ça fait du bien de se synchroniser, d'être sur la même longueur d'onde et on risque de faire du bien à l'autre. Tiens donc, de quoi donner absolument envie de lire cet article sur la synchronisation de nos cerveaux. Donc, c'est paru dans le numéro de décembre de Cerveau et Psycho, dont nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditeurs, quelques numéros à vous offrir, si vous le demandez, bien sûr, par mail ou sur notre page Facebook. Merci Cécile et Sienne d'être passée en vrai, en synchronisation cérébrale dans notre studio sur la même longueur d'onde. On se donne rendez-vous l'année prochaine sur la même longueur d'onde, Cécile.
Absolument, toujours, Caroline.
À signaler aussi en cette fin d'année 2020, les 30 ans de la revue Science Humaine, excellente revue mensuelle qui publie le 11 décembre un numéro spécial consacré cette fois-ci au basculement du monde. Et oui, 1990-2020, trois décennies qui ont vu le monde non seulement changer mais basculer d'Occident vers l'Orient, du Nord un peu plus vers le Sud. Pourquoi et comment tout a changé, c'est à lire dans le très instructif numéro spécial des 30 ans de sciences humaines, disponible dès le 11 décembre, dont nous avons aussi quelques exemplaires à vous offrir, chers amis auditeurs et internautes. Avis aux amateurs sur le site de RFI. Tiens donc, pour nos amis internautes, vous êtes aussi invités en ce moment à voter pour la lauréate du prix découverte RFI 2020. Alors à vous de faire votre choix en écoutant maintenant ou en réécoutant la lauréate du prix découverte RFI 2019, l'artiste congolaise Céline Banza. Juste pour le plaisir, on se quitte avec un extrait de son tube « Terembi.
Terembi, Terembi, ni do tiwele. Terembi, Terembi, ni do tiwele. Ngwe metene. Tembi, ni do mabekongo, ni la moye na dungo. Nila moye na dungo na dungo tembe wali modo nangu nutitere wangu nutembe kaya modo nangu nutitere tembe kaya wangu nutembe kaya mono
La douce voix de Céline Banza de Kinshasa, prix découverte RFI 2019. À vous de voter pour le prix découverte RFI 2020. Rendez-vous pour écouter et faire votre choix sur le site de RFI. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. On retrouvera notre table ronde mensuelle avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique le premier mercredi de janvier, c'est-à-dire le 6 janvier. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à notre podcast, chers amis auditrices et auditeurs. On se retrouve lundi prochain, si vous le voulez bien, avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Caroline Achowski au micro pour vous servir autour de la question, pourquoi le pire n'est pas certain? Tiens donc, nous serons en compagnie des philosophes et écologues Catherine et Philippe Larère et vous verrez, le pire n'est pas certain, tant mieux. On s'en réjouit et on reste sur la même longueur d'onde avec nos cerveaux synchronisés. D'ici là, surtout portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Merci pour votre curiosité sans cesse renouvelée et surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure, dans une minute, de retrouver les informations.